RCF.
RCF Isère, la valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La valeur de l'homme, qu'est-ce que le fascisme ? Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de La valeur de l'homme. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un phénomène politique qui a été central au XXe siècle, le fascisme. On devrait d'ailleurs utiliser un pluriel, les fascismes, tant le mot possède plusieurs sens. Le fascisme désigne le régime qu'a connu l'Italie entre 1922 et 1945, mais aussi le mouvement politique qui est à la source de ce régime, comme l'idéologie qui le sous-tend. La question s'est aussi posée de savoir s'il avait existé un fascisme français dans l'entre-deux-guerres, puis avec le régime de Vichy. Enfin, le terme fascisme désigne désormais tout régime autoritaire, policier ou qui bafoue les droits de l'homme, et toute pratique politique qui relève de la négation de l'individu. Ces diverses dimensions du fascisme et de son histoire, nous allons les examiner en compagnie d'Olivier Forlin, qui a publié en 2013 un ouvrage intitulé « Le fascisme, historiographie et enjeux mémoriels » aux éditions La Découverte. Bonjour Olivier Forlin.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Olivier Forlin, vous êtes agrégé d'histoire, maître de conférence à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, rattaché au CRIP, le centre de recherche en histoire de l'Italie et des pays alpins. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations culturelles et politiques franco-italiennes, spécialiste de l'histoire de l'idée nationale en Italie, de l'histoire des intellectuels et donc de l'historiographie et de la mémoire du fascisme en France et en Italie. Alors, peut-être pour commencer cette émission, commencer par la fin, c'est-à-dire commencer par la période contemporaine. Cette mémoire du fascisme, ce moment du fascisme continue au fond d'encombrer ou en tout cas de peser sur la vie politique italienne. Silvio Berlusconi avait fait il y a quelques années des allusions très favorables au régime. Et puis du côté des historiens du fascisme, comme Emilio Gentile ou Renzo De Felice, on travaille aussi le fascisme comme repoussoir ou comme manière de repenser une nation italienne à nouveau frais, qui serait fondée sur le patriotisme et débarrassée de ses divisions. Alors, est-ce qu'on peut dire ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, le fascisme est toujours un enjeu politique dans la vie italienne d'aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il l'est toujours. Il l'a été en particulier à partir des années 1990 et 2000, parce que là, effectivement, il y a eu un usage accru par les hommes politiques du passé fasciste à des fins de légitimation, en particulier de la part des forces de centre et de droite, derrière Silvio Berlusconi, qui a effectivement révisé l'histoire du fascisme sur des fondements politiques à des fins de légitimation politique. Alors pour expliquer comment cela a pu être possible, il faut repartir un petit peu au début des années 90, où là la République italienne, qui connaissait déjà des dysfonctionnements, instabilité gouvernementale, absence d'alternance au sommet de l'État depuis 1945. Il y a un parti, la démocratie chrétienne, qui était constamment au pouvoir depuis 1945. Donc il y avait des dysfonctionnements et puis il y avait un phénomène de corruption d'une partie de la classe politique. Et là, en 1992, les juges milanais déclenchent une opération main propre par laquelle ils arrêtent une partie des dirigeants politiques, des députés, etc. Et là, tous les partis de gouvernement se disloquent en moins d'un an.
Ça rebat les cartes.
Donc il y a vraiment un tremblement de terre politique très fort. Et évidemment, puisque les principaux partis sont disloqués, c'est aussi le régime qui est atteint. C'est aussi le régime qui est atteint, et avec le régime, c'est aussi son pilier idéologique qui reposait sur l'antifascisme, sur les valeurs de l'antifascisme. Alors parce que quand la République s'est construite après 1945, on n'a pas pu construire la République et reconstituer l'identité collective des Italiens sur l'idée nationale, parce que cette idée nationale avait été dévoyée par le fascisme. Elle était identifiée au fascisme et à ses excès, impérialisme, alliance avec l'Allemagne nazie, donc racisme, antisémitisme, etc. Donc on a reconstitué un régime et une identité collective italienne sur les valeurs de l'antifascisme. Et c'est ça, en 1992, qui est aussi ébranlé. Donc il faut non seulement reconstituer des partis, mais aussi refonder la République sur un nouveau pilier idéologique fondateur. Alors des partis politiques se reforment à gauche, le Parti démocratique de la gauche, le PDS, l'actuel Parti démocratique, et puis des partis de centre et de droite, Forza Italia de Berlusconi, la Ligue du Nord d'Umberto Bossi, et puis le parti d'extrême droite néo-fasciste, le mouvement social italien. Et ces partis-là, bien sûr, veulent refonder la République et l'identité collective, non pas sur les valeurs de l'antifascisme dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas, mais sur l'idée de nation. Ils veulent remettre à l'honneur l'idée nationale et en faire vraiment le pilier du régime politique et de l'identité collective italienne. Mmh. Et pour cela, il faut qu'ils vont réviser l'histoire du fascisme, en donner une image très présentable, donc mettre en valeur ses aspects positifs, la modernisation économique, dire que finalement le régime fasciste avec Mussolini n'ont pas été si répressifs que cela, au moins jusqu'en 1938, et donc présenter l'image d'un régime qui a été un petit peu dur avec les opposants, mais pas plus que cela. L'image aussi d'un Mussolini, une image très positive. Berlusconi avait déclaré que ça avait été le plus grand chef d'État italien du XXe siècle. Que les opposants, finalement, n'avaient pas été si réprimés que cela.
C'était pas le nazisme. Il y avait, au fond, c'est ce qu'on a pu appeler à un moment la défascisation du fascisme.
Tout à fait.
C'était ça l'idée.
Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est une défascisation rétrospective, de manière, encore une fois, à donner relégitimer l'idée nationale et puis aussi à légitimer ces forces politiques de droite de manière à ce qu'elles accèdent au pouvoir. Ce qui a été le cas à partir de 1994 et à plusieurs reprises ensuite
avec des gouvernements Berlusconi. Donc effectivement, alors l'idée aussi de cette remémoration, c'est l'idée qu'au fond le fascisme est quelque chose de très polysémique, ou en tout cas que ça a été un mouvement très composite. Alors on va essayer de s'en approcher un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'il est assez compliqué. Est-ce qu'on peut dire, alors pour revenir donc sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir de 1922 en Italie, il y a un élément qui est important, au fond, ce sont ce qu'on appelle les masses, c'est-à-dire les masses historiquement dépolitisées, mais qui, là, vont rentrer dans la vie politique et vont rentrer dans la nation. Est-ce que c'est un des éléments fondateurs du fascisme italien ?
Oui, parce que effectivement, alors là aussi, ça renvoie aux lectures qui ont été faites par les politiques et aussi par les historiens. Pendant longtemps, les interprétations du fascisme qui ont dominé, c'était celle de la gauche, y compris après 1945. Et pendant longtemps, ces forces de gauche, pour aller vite, influencées par le marxisme, ont dit le fascisme, c'était le fait d'une minorité, une clique violente qui a pris le pouvoir par la violence et qui s'est maintenue pendant 20 ans par la violence, par la répression, par la propagande mensongère, etc. Et donc, il n'y a eu aucun appui. Ce régime-là, cette clique, n'a eu absolument aucun appui auprès des masses. Et là, vous citiez... Et donc ça, on a cru à cette vulgate, entre guillemets, pendant plusieurs décennies, à peu près jusqu'aux années 1970. Et là, il y a un grand historien, vous avez cité son nom, du fascisme, c'est Renzo De Felice, qui a vraiment révolutionné, pour le coup, l'analyse du phénomène, et qui a montré que non, le fascisme s'était bien appuyé sur les masses, à tel point qu'il avait réussi à bâtir autour de lui un consensus. Donc il y a eu un consentement, et ce n'est pas uniquement par la répression, la contrainte qu'il s'est maintenu, il a réussi à construire autour de lui un véritable consensus, un consentement auprès d'une partie des masses, qui a duré du milieu des années 20 jusqu'au moins le 1936-1937, après effectivement le consensus se lézarde, lorsque Mussolini s'allie avec l'Allemagne, le régime nazi, et va être conduit aux exactions de la Seconde Guerre mondiale. Mais jusqu'en 1936-1937, on a un consentement et donc un consensus et un appui d'une partie des masses. Donc c'est bien un mouvement qui a rallié autour de lui et qui s'est appuyé auprès d'une partie des masses, et je dirais aussi qui a obtenu aussi le consentement d'une partie de l'intelligentsia, des hommes de culture. Là aussi, pendant longtemps, on l'avait nié, en disant que le fascisme était l'équivalent de la barbarie. Il n'y avait pas eu de culture fasciste, et c'était un régime barbare. Alors on s'appuyait sur des déclarations de Mussolini dénonçant l'intellectualisme, dénonçant, etc. Or là aussi, Renzo De Felice, puis à sa suite Emilio Gentile, ont montré qu'il y avait une culture, une autonomie culturelle du fascisme, qu'il y avait une culture fasciste, et que le fascisme avait réussi, là aussi sans contrainte, à rallier autour de lui une partie des intellectuels. Et c'était essentiel, parce que ces intellectuels, une fois ralliés, alors pas tous, il y a les opposants, mais une fois ralliés, ils ont ensuite répercuté, ce sont eux qui ont encadré les masses, ils ont répercuté le consensus auprès d'une partie des masses.
Cette génération qui prend le pouvoir en 1922, est-ce qu'on peut dire que c'est une génération politiquement qui a été au fond formée par la guerre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que le fascisme est quelque chose qui trouve ses origines dans cette brutalisation des esprits, où on va ramener au fond la guerre dans la paix, enfin dans le temps de paix, et où on va au fond considérer que le pays a une dette envers vous puisque on a fait la guerre ? Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi fait partie des origines du fascisme ?
Oui, donc là, ça ramène aux origines du fascisme. Alors il y a des origines qui sont antérieures, c'est incontestable que le fascisme puise ses racines pour aller vite dans une série de crises que non seulement l'Italie mais l'Europe connaît à la fin du 19e, crise socio-économique, phénomène d'atomisation des sociétés, crise idéologique avec une montée des valeurs liées à l'irrationnel, exaltation de l'élan vital, du recours à la force, des vertus guerrières, etc. Et ça démarre dès la fin du 19e. Voilà, donc il y a une série de... Mais il y a aussi un élément qui est fondamental, et je pense que sans cet événement-là, il n'y aurait pas eu de, sans doute, hein, ou en tout cas il y aurait eu autre chose, mais il n'y aurait pas eu de mouvement fasciste tel qu'il a existé. Il y a la Grande Guerre. Il y a la Grande Guerre, alors avec ses effets, bien sûr, ses effets déstabilisateurs sur les vies économiques, financières, politiques de tous les États, et puis ses effets en termes, effectivement, vous l'avez dit, de brutalisation, c'est-à-dire que les sociétés européennes ont été soumises à un degré de violence inédit et inouï. Et en particulier chez les soldats, il y a eu un phénomène de banalisation de la violence et de la mort. Et du coup, et c'est George Mossé, donc l'historien américain, un spécialiste du nazisme, qui est le premier à montrer ça, il y aurait eu une accoutumance à la violence. Et donc des sociétés européennes prêtes, après la guerre, à accepter des mouvements et des régimes politiques qui ont recours à la violence.
À l'assassinat politique.
À l'assassinat, la violence, pour parvenir à leur fin. Voilà. Et donc, il y aurait une acceptation du fait de ce phénomène de brutalisation, donc d'accoutumance à la violence pendant les 4 années.
Voilà, qui trouve sa source dans la guerre. On va écouter une chanson qui s'appelle Giovinezza. Vous nous la présenterez juste après, qui est au fond une chanson de propagande, hein, l'hymne du Parti national fasciste. Et puis, vous nous en direz quelques mots juste après, on l'écoute. D'accord. La valeur de l'homme, qu'est-ce que le fascisme ? On est en compagnie d'Olivier Forlin. On vient d'écouter alors un morceau de propagande, enfin une chanson importante pour le fascisme qui s'appelle Giovinezza. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette chanson, Olivier Forlin ?
Oui, alors elle est antérieure. Hein, elle a été créée et composée au début du XXe, et puis ensuite elle est devenue, c'était des chants chantés à Turin parmi les étudiants lors de la remise des diplômes. Ensuite elle passe dans la Première Guerre mondiale, devient l'hymne des Arditi, qui sont ces soldats, ces troupes de choc italiennes de la Première Guerre mondiale, et Arditi qui seront parmi les premiers, parmi les premiers à rejoindre le mouvement fasciste. Et donc, c'est devenu, effectivement, alors les paroles ont été modifiées, et c'est devenu l'hymne du parti national fasciste, donc de la prise du pouvoir, enfin de la constitution du parti, jusqu'en 1943. Et après, c'est devenu aussi l'hymne officiel de la République sociale italienne, la République fasciste, enfin le régime fasciste finissant, hein, lorsque l'Italie est occupée par l'Allemagne. Mussolini a reconstitué un régime dans le nord, qui est la République sociale, et c'est l'hymne officiel du régime. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on retrouve les valeurs, toutes les valeurs défendues par et que voulait propager le régime mussolinien, la jeunesse qui est exaltée, l'héroïsme, alors toutes les vertus guerrières, avec l'héroïsme des combattants, hein, des soldats, le peuple italien présenté et là exalté comme un peuple de guerriers. C'est vraiment ce que voulait le régime fasciste, a voulu, et c'était son projet qui en fait d'ailleurs un mouvement tourné vers l'avenir. Il voulait faire des Italiens un peuple viril, fort, combattant, un peuple de guerriers. Donc retremper la race italienne, hein, je reprends les termes, hein, du régime fasciste. Et donc on retrouve là ce projet-là dans cette chanson, bien sûr, la patrie est exalté, et puis avec les notions de foi, de fidélité, hein, centrale, là également dans l'idéologie fasciste, hein, la chanson se termine en disant « honte à ceux qui répudient la patrie ». Et puis enfin, bien sûr, le tout est porté par le chef, il y a une exaltation de Mussolini, oui, c'est lui qui réveille les Italiens, qui les conduit à la guerre, qui permet de redresser la patrie, etc.
Oui, il y avait un culte de la personnalité très, très important, qu'on sous-estime un peu aujourd'hui, mais qui était très important. Alors, vous le disiez, retremper la race, oui. Et puis on le disait au tout début, l'idée que le fascisme est un mouvement assez, assez composite. Il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif aujourd'hui, mais qu'il faut restituer quand on travaille comme historien, c'est l'idée que le fascisme se voulait un mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire un mouvement progressiste, porteur de valeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fascisme comme mouvement révolutionnaire ?
Oui. Alors là aussi, retour à l'histoire et à Renzo De Felice, parce que c'est lui le premier qui a établi la dimension révolutionnaire du fascisme, parce que jusque-là, effectivement, les interprétations dominantes, pour aller vite, marxistes de la gauche, en faisaient un mouvement profondément et essentiellement réactionnaire. Ouais. Conservateur réactionnaire, tourné vers la restauration du passé, etc. Là, De Felice, au milieu des années 70, dit non. Alors certes, il a distingué deux fascismes. L'un, régime qui a passé un compromis avec les classes dirigeantes traditionnelles, effectivement, qui visent la conservation, etc., qui est plutôt tourné vers le passé. Mais il y a aussi une tendance du fascisme qui est révolutionnaire, qui est tournée vers le futur, et révolutionnaire en particulier en ce que ce courant du fascisme veut remodeler l'homme. C'est une révolution de type culturel et anthropologique. Il y a une volonté de remodeler la nature des Italiens pour constituer l'homme nouveau, qui soit conforme à l'idéal fasciste, à savoir l'homme nouveau, viril, guerrier, combattant, etc. Constituer aussi un ordre nouveau dans les relations internationales. Et tout cela, ancre le fascisme, dans le domaine de la révolution. Il a des visées, effectivement, il est tourné vers le futur. Et ça a bousculé, pour pas dire plus, hein, ça constitue un bouleversement vraiment de l'entendement du phénomène. Et ça constituait d'ailleurs, c'est à l'origine de très fortes polémiques, parce que les historiens, les politiques de gauche ne voulaient pas admettre qu'on puisse classer le fascisme parmi les mouvements de tourner vers le progrès, vers la révolution, etc.
Il y a une dimension, notamment, qui est la question du futurisme et de la passion du fascisme pour l'industrie, les progrès de l'industrie, l'architecture. Je crois que le Parti National Fasciste a absorbé à un moment un petit parti qui était le parti futuriste. Donc on connaît l'architecture futuriste, mais il y a cette dimension-là aussi de profiter, au fond, des bienfaits de l'industrie pour construire une Italie nouvelle ou construire une nation nouvelle.
Tout à fait. Et même dès l'origine du fascisme, hein, les futuristes, il y a une partie des futuristes qui ont rallié avec Marinetti hein, qui était le chef de file du mouvement futuriste, qui ont rallié le fascisme dès la création des premiers faisceaux en 1919. Alors après, les relations étaient plus compliquées. Effectivement, le parti futuriste a été absorbé par le régime, mais ils sont restés alliés seulement un temps. Mais il y a des éléments, à titre individuel, des artistes, des écrivains futuristes qui ont participé au régime et qui ont effectivement fait des œuvres traduisant cette volonté de plier la modernité technologique aux finalités politiques et idéologiques du régime.
Alors on va essayer de s'approcher un peu de ce régime, dans son fonctionnement. On ne pourra pas tout voir, mais donner quelques éléments. Qu'est-ce que met en place Mussolini ? Il met en place un État totalitaire, il met en place les grands rassemblements de masse qui inspireront le nazisme, il met en place une répression policière, il met en place un écrasement de la société civile. Est-ce qu'on peut donner ces caractéristiques ou est-ce qu'il faut nuancer
Alors il y a un élément essentiel dont on n'a pas parlé et qui est donc très important et qui va de pair, qui est inséparable de la dimension révolutionnaire du fascisme. Pour le fascisme, voilà, a voulu rassembler autour de lui, unifier, rassembler la nation italienne et donc forger l'homme nouveau. Et pour cela, il met en place des cadres totalitaires. Il est aussi un régime totalitaire parce que le régime ne peut pas se contenter d'avoir le monopole de la vie politique. Ça ne suffit pas si on veut remodeler la nature humaine. Il faut aussi encadrer les Italiens, la société civile et les Italiens dans leur vie privée, contrôler leurs croyances, etc. Et pour cela, le régime a encadré l'ensemble de la population, enfin une grande partie de la population, de la jeunesse à l'âge adulte, avec des organisations de jeunesse, avec les corporations, donc les Italiens au travail, des organisations de loisirs. Hein, donc les Italiens étaient aussi encadrés dans leur loisirs, le tout étant, voilà, la finalité étant de remodeler, donc d'inculquer l'idéologie officielle et pour, in fine, remodeler l'homme et créer l'homme nouveau. Mm-hmm. Donc la dimension, vous voyez, révolutionnaire, cette volonté de diffuser une révolution culturelle anthropologique est inséparable de la dimension totalitaire du régime. Alors bien sûr, c'est 1922, Mussolini ne s'est pas dit d'emblée, je vais... voilà. La construction du régime totalitaire s'est faite très progressivement. Mussolini a tâtonné, donc c'est peu à peu que se mettent en place les institutions permettant d'encadrer la population, avec une accélération toutefois. Il y a une accélération totalitaire après 1936. D'accord. Parce que là, il y a l'exemple allemand, nazi, et Mussolini s'aperçoit que Hitler, en 3-4 ans, est allé beaucoup plus loin et plus vite que lui, et donc il veut imiter, et donc il relance là la dynamique totalitaire du régime, et on va y venir tout à l'heure, les lois racistes et antisémites seront un élément de cette accélération et de ce renforcement de la dynamique totalitaire.
On va en reparler, on va écouter un célèbre morceau, vous nous en direz là aussi un mot, Bella Ciao, on va écouter une version faite par le chanteur français Thomas Fersen.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. Gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
La valeur de l'homme, qu'est-ce que le fascisme ? On est en compagnie d'Olivier Forlin. On vient d'écouter ce qui était l'hymne des résistants italiens, Bella Ciao, qui est devenu un standard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson ?
Oui, donc là, un air très connu, chanson des partisans, mais qui est antérieure là aussi à la Seconde Guerre mondiale et à la résistance italienne, puisqu'à l'origine, alors j'ai lu que c'était, on ne connaît pas l'auteur de la chanson, mais c'était une chanson de protestation du Piémont, donc comme Giovinette, ça d'ailleurs, ça vient de la région de Turin, et qui avait été écrite pour exprimer la dure condition sociale des travailleuses, des ouvrières agricoles, des rizières du Piémont qu'on appelle les mondine, qui sont des ouvrières agricoles saisonnières et qui avaient des conditions de travail, de rémunération extrêmement difficiles. Et donc cette chanson a exprimé leur protestation. Et ça renvoie aussi, alors il y a un beau film qui a été réalisé sur la condition de ces femmes qui travaillaient dans les rizières. C'est un film néo-réaliste de 1948 de Giuseppe De Santis qui s'appelle Riamer, voilà, et qui est relativement connu. Et alors pendant la résistance, là aussi les paroles ont été en partie modifiées pour l'adapter à la situation donc d'un partisan qui un matin se lève, trouve l'envahisseur et décide de s'engager dans la lutte armée où il va trouver la mort, mais il meurt pour la liberté, voilà, c'est ainsi que se termine la chanson. Alors je dirais, pour aussi en relation avec la vision du fascisme et de la résistance, c'est que, j'avais dit tout à l'heure que les forces de gauche avaient interprété le fascisme après 1945 comme étant un mouvement, enfin un phénomène très minoritaire, qui n'avait pas eu l'appui des masses, etc. Inversement, ces mêmes forces de gauche, notamment communistes, avaient dit la résistance a été populaire et il y a eu un appui massif de la population autour des partisans. Or là aussi, et donc cette chanson traduit le fait que là on a un homme du peuple, voilà, qui s'engage dans la résistance, et ça traduit donc cet engagement massif dans la résistance. Or ça a été là aussi nuancé par plusieurs historiens, et en fait la résistance, elle a été, comme d'ailleurs l'engagement pour le fascisme finissant, les deux ont été des phénomènes minoritaires.
D'accord. Je voudrais qu'on s'intéresse à un pan un peu méconnu du fascisme italien, alors que vos travaux mettent en évidence avec ceux aussi de Marianne Matar-Bonucci à Grenoble. C'est au fond la dimension antisémite du fascisme. Il y a eu des politiques raciales. Voilà. Alors, on a dit à un moment qu'elles étaient importées. Il n'en reste pas moins qu'elles ont été forgées en Italie à partir de 1938. Et 7860 Italiens juifs ont été déportés et assassinés. Quelles sont les formes de cet antisémitisme italien ou de cet antisémitisme fasciste ?
Oui, donc 7800, donc soit le quart de la population juive d'Italie, donc on a le même taux que les juifs de France qui ont été déportés. Oui, alors le fascisme à l'origine n'est pas antisémite. Il n'est pas antisémite, même s'il y a eu il y avait des petits groupes. Ça, c'est Marianne Matar-Bonucci qui l'a montré dans ses travaux. Il y a des petits groupes effectivement antisémites, mais qui ont été tenus en lisière par Mussolini. Et donc, jusque vers 1936-38, le fascisme n'est pas fondamental. Son idéologie ne repose pas sur le racisme et l'antisémitisme. Il va adopter cet antisémitisme, des lois. Alors d'abord raciste, c'est avec la conquête de l'Éthiopie qu'est instauré un régime de ségrégation raciale en Éthiopie. Donc là, il y a des lois racistes en 1937, qui interdisent les relations conjugales entre soldats italiens et femmes africaines. Et ensuite, même s'il n'y a pas d'effet, disons, de lien de cause à effet, mais malgré tout, il y a une prise de conscience du problème racial par les fascistes, par Mussolini. Et ensuite, en 1938, il y a une campagne antisémite qui est déclenchée à l'été 1938 et qui débouche sur des lois définissant les juifs sur des critères raciaux et ensuite les excluant de plusieurs professions. Alors, il y a, si vous voulez, en 1938, donc à ce moment-là, Mussolini est allié de l'Allemagne nazie, donc c'est sûr qu'il limite en partie les lois antisémites nazies, mais ce qui est important, et c'est ce qui n'avait pas été mis à jour pendant longtemps, c'est qu'il y a eu une autonomie de décision. Hitler n'a rien imposé du tout, et c'est bien Mussolini qui a décidé d'imposer ces lois antisémites, et je vous le disais, c'est dans le cadre du durcissement et de la relance de la dynamique totalitaire du régime, désigner un ennemi objectif, ça permet de mobiliser les masses et donc de durcir le contrôle totalitaire de la population de manière toujours à forger l'homme nouveau.
Merci beaucoup Olivier Forlin. Je rappelle le titre de votre livre, Le fascisme, historiographie et enjeux mémoriels. C'était La valeur de l'homme. À bientôt sur RCF Isère.
We'll be right back.